Bonjour, vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud Ankawa, je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance. Je suis également romancière, coach et conférencière. Mais surtout, quelle que soit mon activité, j'aspire au bonheur, qui est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences et de mes voyages. Ce qui d'ailleurs a inspiré l'écriture de mes 3 romans, devenus aujourd'hui grâce à vous des best-sellers, Kilomètre Zéro, Respire, le plan est toujours parfait et Plus jamais sans moi. Et aujourd'hui, si je suis ici à ce micro, c'est dans l'espoir de continuer à échanger avec vous en toute intimité, de cœur à cœur sur nos expériences de vie. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, rendre possible l'impossible. Alors cette fois-ci, je ne vais pas être seule au micro, je suis en compagnie de Léa Moukanas, qui est vraiment incroyable, hein, comment à 24 ans elle transforme tous les essais, même les obstacles impossibles pour se mettre au service des jeunes en séjour long à l'hôpital. À 15 ans, elle crée l'association AIDA, aujourd'hui suivie par des milliers de jeunes. J'ai l'immense honneur de te recevoir, Léa. Merci infiniment d'avoir accepté avec tant de générosité cette invitation. Bonjour Léa.
Bonjour Maud, merci de me recevoir.
Merci à toi. Comment je pourrais te décrire ou comment je pourrais te présenter? En fait, la meilleure façon de te présenter, c'est peut-être te laisser te présenter par tes valeurs. C'est quoi tes valeurs?
Écoute, moi je suis née à Beyrouth et j'ai grandi dans une famille libanaise. Donc je pense que la première valeur, c'est la famille. Et la deuxième valeur, c'est les racines. Parce que moi, on m'a toujours appris en grandissant qu'on n'oublie pas d'où on vient. Et je pense que ça a beaucoup forgé de choses dans mon histoire et dans ce que je fais aujourd'hui, dans qui je suis devenue 24 ans plus tard.
24 ans plus tard. Donc Léa, elle a 24 ans. Et ce n'est pas à 24 ans d'ailleurs que tu as créé tout ce que tu as créé, puisqu'elle est à l'origine de l'association AIDA, hein, qui aujourd'hui représente combien de bénévoles? Je ne sais même pas le dire.
Alors, on a engagé plusieurs dizaines de milliers de jeunes depuis la création d'AIDA, et c'est 2000 nouveaux bénévoles chaque année qu'on forme.
Donc, c'est une équipe juste folle. AIDA, c'est quoi? Beaucoup la connaissent déjà, hein, cette association qui aide les jeunes à amener des activités dans leur processus de guérison, puisque c'est des jeunes qui sont malades de maladies graves souvent. Hein, et vous les aidez, toute l'équipe finalement aide ces jeunes à voir les choses autrement, à garder l'espoir, à garder leurs rêves. Et puis même au-delà de ça, une fois qu'ils sont dans cet espace de guérison, de pouvoir continuer avec de vraies armes. Donc, c'est un travail juste colossal et en même temps qui a tellement de sens. Comment à 24 ans, et je dirais même à 16 ans, parce que j'ai appris que tu t'étais un peu émancipée. On va dire que tu as commencé à 18 ans, mais en réalité, c'était un petit peu avant, et avec une mère quand même avocate, je crois.
C'est
pas facile de s'émanciper si jeune, mais bon, on va dire que ça a commencé à partir de 18 ans, pour pas te mettre mal à l'aise. Mais comment, si jeune, on peut avoir la conscience d'aider le monde, parce que là, on n'est plus à aider son quartier ou ses voisins. Comment, si jeune, on peut avoir des projets si ambitieux et au-delà d'avoir les projets, de les réaliser. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là?
Je pense que si tu te remets dans le contexte, il se passe plusieurs choses. J'ai une confrontation personnelle avec la maladie qui me fait prendre conscience que dans les hôpitaux, il y a des jeunes qui ont mon âge, qui sont à l'hôpital toute la journée et qui, à aucun moment dans leur parcours de soins, vont rencontrer des jeunes de leur âge, vont avoir tous ces processus que tu peux avoir à 14, 15, 16, 17 ans où tu te construis. Tout ça, tu le vis à l'hôpital et t'es pas forcément accompagné toujours pour le vivre. Moi, je pensais que le cancer et que la maladie de façon générale, c'était des maladies de vieux. Et donc, quand tu te rends compte que ça peut toucher des jeunes de ton âge, t'as cette première prise de conscience-là. Et ensuite, je dirais que t'as le contexte à cette époque-là. Alors, je sais qu'il faut qu'on dise que j'avais 18 ans, mais en vrai, j'avais 14 ans.
Mais oui, il faut être clair. Merci de le dire. Parfois, déroger à certaines règles, ça amène du bon. Et
c'est
moi, ça.
Ça,
je le dis toujours, il faut avoir du sens. Quand on déroge à une règle, il faut qu'il y ait du sens.
C'est ça. Mais donc, à l'époque où j'avais entre 14 et 18 ans, on va dire, c'était avant toutes les vagues Greta Thunberg, avant toutes les vagues d'engagement. C'était vraiment l'époque où on parlait de ma génération comme étant la génération canapé, la génération qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de futur. Enfin, c'était vraiment tout ce contexte-là. Et de l'autre côté, c'était l'époque où il y avait les vagues d'attentats en France. Et donc, on avait Vigipirate quand on allait au collège. T'étais dans un contexte où tu te sentais face à un truc hyper infiniment grand en face de toi, que tu pouvais pas contrôler, une espèce d'urgence permanente. Et en même temps, t'avais envie d'agir, mais tu savais pas tellement comment faire et par où prendre le truc, quoi. Et je pense que tout ça, ça naît avec juste cette envie d'agir, cette envie de faire quelque chose et d'apporter ta pierre, d'apporter un peu d'infiniment petit à cet infiniment grand, finalement. Et je pense que tout ça, même si c'est des sujets qui sont pas forcément liés d'apparence, c'est profondément le socle de mon engagement au départ. Et donc, effectivement, je crée AIDA à 15 ans, avec vraiment cette idée de permettre à ma classe de faire quelque chose de très concret pour les jeunes qui sont hospitalisés dans l'hôpital le plus proche de notre lycée. Et en se disant qu'en allant passer du temps à 14, 15, 16 ans, le mercredi après-midi, le samedi avec d'autres jeunes, bah déjà, ça allait faire en sorte que notre adolescence, elle ait un peu de sens. Pouvoir faire un truc sympa entre potes, je pense qu'au départ, il n'y avait pas d'ambition extraordinaire, il y avait vraiment juste la volonté de faire quelque chose de concret.
Donc d'amener une pierre à l'édifice, t'emmènes quand même une classe ou des copains, hein, donc tu leads une classe autour d'un projet, il faut quand même en parler, parce qu'à cet âge-là, bon, tu penses plutôt à aller sortir, à faire la fête et machin, que d'aller te retrouver dans des hôpitaux pour aider des jeunes. Donc même si toi, ça t'incarne, parce que peut-être justement, tu avais vécu certaines choses, il faut quand même emmener les autres autour d'un projet qui n'est pas simple, simple. Comment tu les emmènes déjà ?
T'as raison, juste sur aller faire la fête, moi je pense que ce qu'on a vraiment vécu au départ, c'était comment est-ce qu'on peut aller faire la fête quand il faut aller faire la fête à l'hôpital, comment est-ce qu'on peut pleurer quand il faut aller pleurer à l'hôpital, mais comment est-ce qu'on peut vivre toutes ces émotions-là en leur donnant un sens. Parce que je pense que ce qui était vraiment compliqué à l'époque, c'était que je pense qu'il y avait une partie de nous qui se sentait pas forcément entendue, écoutée, et qu'on avait envie en fait de vivre toutes ces émotions-là ensemble. Je pense qu'il y a des choses qui sont liées à notre vécu. On a perdu une camarade de classe quand on était en cinquième, qui est décédée l'été de notre cinquième à notre quatrième.
D'une maladie ou
d'un accident.
D'un accident, d'accord.
Ça a beaucoup marqué toute la promo, d'autant plus qu'on n'en a pas forcément parlé, on ne l'a pas forcément verbalisé. Mm-hmm. Donc tu sais, tu le laisses un peu enfoui dans ton inconscient, et ça devient assez tabou. Donc je pense qu'en tout cas, on avait la conscience de ce que c'était que de finir une année à 30 et puis de la commencer à 29 l'année d'après. Donc je pense qu'on avait cette sensibilité-là. Et le deuxième élément, c'est qu'on s'est tous retrouvés autour d'un point commun, qui est qu'on avait tous eu la volonté de s'engager à un moment. C'est-à-dire qu'on avait tous voulu se lever et faire quelque chose. Toujours ce sentiment d'impuissance, toujours cette idée de se dire qu'on apporte un tout petit peu d'infiniment petit à l'infiniment grand, mais on s'était fait recaler. Donc on avait tous contacté des associations en disant bah voilà, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de faire quelque chose de concret, d'utile, etc.
Mais pas majeur, pas
mais pas majeur, gagne pas sa vie, ou vient tous les jeudis à 15h, mais pas du tout adapté à l'emploi scolaire d'un lycéen. Et donc on s'était retrouvés dans des contextes où on n'avait pas pu s'engager. Il y avait quelque chose d'assez injuste à cette époque-là, au-delà de ce qu'on pouvait voir à l'hôpital et au-delà de ce qui pouvait nous révolter. Il y avait quelque chose d'assez injuste d'avoir d'un côté la génération canapé bonne à rien faire et de l'autre côté cette volonté de s'engager mais cette incapacité à le faire parce qu'on était trop jeune. Il y avait un truc qui sonnait faux et donc je pense que c'est ce qui a embarqué la promo tout de suite. Après, ce qui est génial quand tu crées un projet comme AIDA, c'est que tu comprends très vite la force du collectif. C'est-à-dire que moi, je pense que je sais arrondir les angles quand il faut, je sais ce que je veux et à peu près où on va. Mais très vite, il y a d'autres camarades de promo, qui n'étaient pas forcément des copains d'ailleurs, qui sont arrivés, qui eux savaient aller pitcher le projet en classe. Et ça a été assez complémentaire, assez vite. Et donc effectivement, il faut avoir l'idée, il faut donner la vision. Mais il faut aussi laisser de la place à ceux qui vont rejoindre le projet. Parce que en fait, la somme de chacun de nos engagements a fait AIDA aujourd'hui.
Merci pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des envies. Et on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Ouais. Et ce que j'entends, c'est comme tu viens de le dire, c'est que tu ne savais pas vraiment où ça allait mener tout de suite. Mais en tout cas, on a une idée, on commence à la concrétiser. Et puis, le collectif arrive et amène des idées. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est quoi l'étape d'après ? Enfin, il faut des ressources, il faut donc de l'argent. Clairement, au-delà des idées et autres, il faut de l'argent. Et les premiers pas, c'est quoi ?
Alors, je pense qu'il y a trois étapes. Il y a la première chose, c'est qu'est-ce que je veux faire. Mm-hmm. Même si on tâtonne un peu au départ, on a quand même une idée claire. On a des jeunes entre 12 et 30 ans qui sont hospitalisés. On veut pouvoir les accompagner pendant et après les traitements. Donc, c'est l'idée de départ. La deuxième étape...
On parle forcément de cancer ou...
Aujourd'hui, c'est des jeunes qui ont un cancer ou qui ont une pathologie qui les hospitalisent dans des services d'oncologie, d'hématologie ou d'immunologie. Donc, par exemple, la drépanocytose. Voilà. Mais en tout cas, c'est des pathologies maladies, ouais, qui nécessitent des hospitalisations de longue durée. Donc, la première chose, c'est d'avoir l'idée de départ. Pourquoi est-ce qu'on va se lever le matin ? Qu'est-ce qui va faire qu'on va se retrouver ? Qu'est-ce qui va faire qu'on va vouloir aller chercher de l'argent ? C'est voilà, notre moteur, et nous, c'était vraiment ça. Et puis, de voir qu'on répondait à un besoin. Aussi, que tu avais des jeunes de 19-20 ans qui te disaient, bah voilà, moi, vous êtes les seuls jeunes que je vois dans ma semaine. Et donc, bah merci, parce qu'en fait... grâce à vous, je me sens jeune et pas malade avant tout. Et c'était vraiment ça qu'on voulait créer. Donc, on avait ce moteur-là du départ. La deuxième étape, ça a été de créer une structure à proprement parler.
Donc là, c'est une association.
Là, c'est une association, loi 1901 qu'on crée à cette époque-là. Bon, là, il fallait avoir...
fallait avoir 18 ans.
Voilà. Ou à minima 16 ans avec autorisation parentale. Moi, j'en avais tout juste 15. Donc là, on ruse comme on peut. Je colle mon bulletin de notes sur les statuts de l'association. Ma mère, pensant signer mon bulletin de notes, signe les statuts de...
Ça, c'est pas bien. Mais c'est bien
à
quand
ne
même.
Pas reproduire chez soi.
Avec modération, en tout cas.
Et donc, ça crée l'association. En fait, pense que ma mère aurait accepté.
Oui.
Mais je pense que j'avais pas envie d'inquiéter mes parents. Je pense que j'avais envie d'avoir aussi mon espace. Je pense qu'avec mes copains de lycée, on avait aussi envie d'avoir notre espace où on pouvait agir. Et je pense que comme on savait pas si ça allait marcher ou pas, je pense qu'on avait vraiment besoin de le tester en se disant, on teste. Peut-être que ça marchera pas. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on en rigolera dans 20 ans en disant qu'on avait voulu créer ça et qu'on a essayé. Quoi.
Bien sûr.
Donc ça, c'est la deuxième étape. Et puis effectivement, la troisième étape, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, qu'on le veuille ou non, ça a été de commencer à collecter de l'argent. Alors là, quand on a 15 ans, qu'on sait ce qu'on veut faire, mais qu'on a...
On peut aller travailler à droite à gauche.
On peut pas aller travailler, on ne sait pas trop récupérer les fonds, on ne sait même pas si tu peux signer un chèque, ouvrir un compte bancaire, donc tu le fais. Mais honnêtement, je crois qu'il fallait être un peu plus âgé. Il a fallu faire les premières collectes de fonds. Donc, notre toute première collecte de fonds à cette époque-là, ça a été des gâteaux qu'on a préparés, qu'on a vendus dans nos lieux de vacances. Parce qu'en fait, on avait commandé des t-shirts qu'on vendait aussi à nos profs. Sauf qu'on avait commandé des t-shirts sans avoir d'argent. Donc, il fallait financer les t-shirts. Donc, bref. Donc, ça,
et puis, c'est cette inconscience parfois de la jeunesse qui aide aussi peut-être à dépasser certaines choses. Parce qu'il y a ce côté un peu gonflé, dosé.
En tout cas, c'est vrai qu'on avait peur de rien. Bon, il y avait un vrai trafic au lycée. C'est-à-dire que... tu mesurais ta cote de popularité en tant que prof par le nombre de t-shirts que tu avais achetés et si tu en avais acheté ou pas. Et donc, on cachait l'argent sous l'estrade. Mais pour financer ces t-shirts-là, on avait fait des ventes de gâteaux. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça qu'on finance AIDA et peut-être qu'on en reparlera. Heureusement, ça a un peu évolué depuis.
Et puis maintenant, tu es en âge de signer.
Voilà, j'ai 10 ans de plus, donc je suis en âge de signer. Mais un truc qui est chouette, c'est que cet esprit-là est resté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de jeunes qui s'engagent avec AIDA partout en France. Et en fait, dans leur établissement scolaire, ils font des ventes de t-shirts, ils organisent des ventes de gâteaux. Et ça reste une façon de soutenir des projets à l'hôpital.
J'aimerais rebondir sur cette clé qui est fondamentale, parce que quand on se lance dans quelque chose, souvent et immédiatement, il y a les peurs qui arrivent. Oui, mais je suis trop jeune, je n'ai pas assez de diplômes, j'en ai trop, etc. Et puis finalement, on met toujours un tas de freins. Et il y a un tas de freins. Mais ce qui m'inspire vraiment dans ton histoire, c'est que alors qu'il y a tous les freins et que dès le départ, c'est non, déjà, tu n'as pas l'âge, eh ben finalement, il y a toujours des solutions. Alors, OK, plus ou moins à la débrouille, mais il y a toujours une solution. Et quand on veut vraiment quelque chose, quand on est vraiment motivé par quelque chose qui a du sens pour nous, eh ben des solutions, il y en aura toujours. Et ça, tu nous le montres à travers 10 ou 12 freins là, qui étaient devant ce projet. Et finalement, ben, un pas après un autre, vous êtes arrivé à ça.
Quelqu'un que j'admire beaucoup m'a dit récemment « la peur, ça s'apprend ». Et j'ai complété sa phrase en disant « dans ma tête, les solutions, ça se trouve ». Je crois qu'on apprend à avoir peur en vieillissant. Et qu'en fait, à cet âge-là, on n'avait pas peur. Parce qu'en fait, tout ça, c'était tellement nouveau pour nous qu'on ne se posait même pas la question. Et puis, on était tellement inconscient, naïf et innocent dans un monde qui ne l'est pas du tout, qui est le monde de l'hôpital, que je pense que ça a apporté beaucoup de fraîcheur. Mais je crois que, par exemple, si j'avais construit AIDA aujourd'hui, comme j'ai d'autres mécanismes de peur qui sont arrivés, il n'y aurait pas eu cette même innocence. Et pour les solutions se trouvent, le monde associatif et le monde de l'hôpital, c'est le monde de la débrouille, qu'on le veuille ou non. Je pense qu'effectivement, tu as raison, il y a des solutions et on arrive à se frayer un chemin là-dedans.
Et même si ce n'est pas immédiat, parfois ce n'est pas immédiat, parfois il faut du temps, il faut tomber. Et c'est un peu cette insouciance, je le dis souvent, quand on apprend à marcher, on a à peine un an, on tombe pour apprendre à marcher en moyenne 2000 fois, il faut tomber de tout son poids pour apprendre à marcher. Donc tu tombes 2000 fois de tout ton poids, tu te relèves, tu retombes de tout ton poids. Et pourtant l'enfant, dans cette innocence... Bah ok, je tombe, mais je me relève quand même. Et puis en face, il y a « mais si, tu vas y arriver, tu vas y arriver ». Bah là, c'est pareil, c'est vraiment l'innocence. Peut-être, comme tu dis, si tu l'avais fait 10 ans après, tu aurais eu plus de peur que tu n'en avais à 14 ou 15 ans. Mais voilà, cette innocence va faire que « ok, j'y vais quand même ». Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que malgré tous ces freins, et les freins, ils sont réels, tu aurais pu te dire « bon, je vais attendre 2-3 ans d'avoir 18 ans, déjà, ce sera plus simple ». Et puis après, une fois que tu as 18 ans, bah, je vais attendre peut-être de connaître plus de réseaux. Et puis je vais attendre peut-être. Et puis bon, il se passe des années et finalement, on ne fait rien. Et on ne fait rien parce qu'on est face à ces freins. Qu'est-ce qu'en 10 ans, entre le moment où tu crées cette association et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris sur toi ?
Beaucoup. tu passes les 10 ans, peut-être les plus importantes, où tu te construis. C'est ton âge charnière de transition entre l'enfance et le monde adulte, à construire un projet. Et donc forcément, tout ce que tu apprends sur toi nourrit ton projet, qui te ressemble à plein d'endroits. Et puis tout ce que la construction de ton projet t'apprend te fait grandir aussi. Donc ça, je pense que c'est beaucoup réfléchi à la question de grandir. Ça veut dire quoi, grandir? Et moi, j'ai eu la chance de grandir, moi, et de faire grandir un projet. Et ça, je pense que ça a été assez exceptionnel. De façon assez pragmatique, moi, j'étais très timide il y a 10 ans. Et j'ai, par Aïda, découvert ce que c'était que d'aller vers l'autre et d'aller à la rencontre de l'autre. Je pense que ça a donné beaucoup de sens aussi. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a 10 ans, j'imaginais que ce que je fais aujourd'hui aurait pu être un métier. Moi, je viens d'une famille qui a fui la guerre, qui est arrivée en France, où on me disait, bah voilà, l'objectif, c'est gagner ta vie. Nous, on a fait des sacrifices. Toi, bah voilà, il faut que tu honores ces sacrifices, toi. Donc, faire le métier que je fais aujourd'hui, pour ma famille, il y a 10 ans, c'était probablement pas tout à fait un métier. Et découvrir que tu pouvais te lever le matin en vivant de ta passion et en donnant du sens à chacune de tes actions, je pense que ça a été une découverte extraordinaire. Quand j'avais 14 ans, on me présentait tellement de métiers, médecin, avocat, fleuriste, prof. J'avais envie de faire tous ces métiers en même temps et en même temps, j'avais envie d'en faire aucun. Donc, c'était très perturbant quand j'allais voir le conseiller d'orientation du lycée parce que je cochais toutes les cases et en même temps, j'avais envie de rien faire de ce qui existait déjà. Et je pense que j'ai appris qu'on pouvait créer son métier tant qu'on se sentait aligné à sa place et à un endroit où on avait du sens, en prenant des briques peut-être de métiers qui existent déjà, en inventant aussi des maillons qui manquent pour compléter la chaîne. Alors, je pense que c'est un autre élément que j'ai appris. Et je pense que le troisième que j'ai appris, c'est que tout ça, quand bien même on travaille beaucoup, quand bien même on a beaucoup de passion, n'existe pas si on n'a pas d'équilibre. Et on m'a demandé récemment ce que je considérais comme étant un succès. Et pour moi, le plus beau des succès, c'est l'équilibre.
Et c'est quoi pour toi l'équilibre ?
Je pense que l'équilibre, il existe à plusieurs endroits. Il existe entre ta vie pro et ta vie perso. Je pense que c'est le plus classique. Il existe dans la quantité d'énergie que tu donnes tous les jours. Moi, j'ai un profil qui aime foncer d'un coup et qui après a besoin d'un temps de repos. Bon, bah, j'ai appris à rationaliser tout ça et être dans quelque chose de plus continu, de construire le temps long. Moi, j'ai un profil qui ne savait que fonctionner dans l'urgence. Donc, j'ai appris à penser le temps long à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois. Le moment le plus révolutionnaire en 10 ans, c'est quand j'ai fait un plan de développement à 5 ans. Parce qu'il a fallu qu'avec Aïda, je me projette à...
C'est un quart de ta vie, 5 ans quand même.
5 ans, voilà. Ça a été énorme pour moi parce que jusqu'à présent, je me projetais à 6 mois grand maximum. Donc ça, je pense que ça nourrit l'équilibre. Et puis, c'est dans quels espaces tu te ressources aussi. Et je pense que l'hôpital et le fait d'accompagner des jeunes, dont 1 sur 5 meurt aussi, donc on était confronté à la maladie, mais tu es aussi confronté à la mort, fait que tu as aussi besoin d'espaces où tu peux remettre des émotions, tu peux remettre de la vie aussi dans tout ça, même si tu vis des moments qui sont pleins de vie à l'hôpital. Parfois, tu rentres le soir et tu es un peu vidé. Et moi, c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup d'équilibre dans la lecture, beaucoup d'équilibre dans l'écriture, qui me permet de me créer un peu mon monde et de me ressourcer de façon parallèle.
Comment t'arrives à mettre de la conscience parfois sur justement ne pas se laisser happer de trop dans un projet ou par ta vie personnelle, tes amis, ta famille, ta vie amoureuse? Comment tu ressens que c'est au bon endroit ? Je dis bien ressent parce que souvent ça passe par un ressenti, ouais, plus que quelque chose de mathématique qui est bon, je passe 3 heures au boulot, 10 heures au boulot et puis 2 heures au sport. Et puis comment tu ressens que c'est au bon endroit?
Moi, pour ressentir, j'ai besoin d'espace. Sinon, je ne peux pas ressentir.
Et l'espace, ça veut dire quoi? De la solitude? Ça veut dire quoi l'espace?
Ça veut dire de l'espace physique autour de moi, déjà. Alors, à Paris, ce n'est pas très pratique. Mais donc, ça veut dire que j'ai besoin de moments où il y a de la nature autour de moi. Ça veut dire que j'ai besoin de faire cet espace physiquement. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est que j'ai besoin de mettre à distance certaines choses. Donc, par exemple, de ne pas avoir mon portable pendant un moment. Enfin, voilà, j'ai besoin de créer un espace qui soit à la fois physique, mais qui se passe aussi dans ma tête autour de moi. Et je crois que quand je crée cet espace, ça m'aide à discerner et à prendre des décisions, ça donne des idées. Je te donne un exemple, je suis partie vivre 10 mois à Saint-Malo, il y a 2 ans maintenant, où j'ai écrit donc mon livre qui est sorti l'année dernière chez Robert Laffont.
Je veux être utile.
C'est ça. Et en fait, j'allais pas du tout à Saint-Malo pour écrire un livre au départ, je dois être très honnête. J'allais à Saint-Malo parce qu'on sortait de la crise Covid, j'étais à un moment de tournant où je me demandais si Aïda allait devenir mon métier ou pas, si je voulais faire autre chose, si voilà. J'avais surtout besoin de me poser et de réfléchir, ce que j'avais jamais fait depuis la création d'Aïda. Et donc, je suis allée complètement par hasard à Saint-Malo, sachant que je n'avais jamais mis les pieds là-bas. Je sentais juste que j'avais besoin d'aller...
Une énergie très particulière à Saint-Malo, ouais. En plus. Des plages exceptionnelles.
C'est ça. Et vraiment... puis, de l'espace. Et parce de que l'espace. Quand tu arrives ouais. sur ouais. cette
quand
plage...
Quand c'est marée basse.
À marée basse, c'est, ouais, c'est énorme. C'est... Et c'est ma définition de l'espace ouais, et de l'horizon. Comprends. Et donc, j'arrive à Saint-Malo et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Tu as 21 ans. Tu bosses toujours, mais tu fais tes allers-retours pour bosser. Tu découvres la structuration de l'offre de soins en Bretagne aussi. Enfin voilà, tu bosses quand même, mais tu es dans un espace qui est complètement nouveau où tu connais personne. Et c'est vrai que à la fois ce vide immense sur la plage, à la fois cet horizon, à la fois cette notion du temps et de prendre le temps, c'est-à-dire que t'as pas de métro à Saint-Malo, t'as pas,
t'es pas embarqué comme à
tu vas beaucoup
Paris,
moins vite ouais, ouais, qu'à vrai. Paris. Tu mmh. ralentis. Et ce moment où tu te fais de l'espace et tu ralentis t'aide à discerner. Et quand je suis rentrée de Saint-Malo, parce que bon, il y a un moment où je me suis dit que ce serait quand même bien de rentrer, au bout de 10 mois, j'avais donc écrit ce livre. Et je me suis aussi dit, maintenant, il faut que j'aie Saint-Malo à Paris, en fait. Je ne peux pas passer ma vie à partir je ne sais pas où, mais il faut que dans mon quotidien, j'arrive à recréer Saint-Malo. Et ça, ça passe par plein de petites choses que tu peux faire au quotidien, lire des livres à voix haute, parce que quand tu les lis à voix basse, bah, ça te prend beaucoup moins de temps. Donc quand tu les lis à voix haute, bah, tu crées du temps au temps et tu donnes du temps au temps. Ça passe par avoir des journées que tu passes sans téléphone le week-end, ça passe par tout ça. Mais c'est assez chouette et puis ça permet de recréer cet espace.
Ça, c'est une clé vraiment fondamentale et merci pour ça, se créer de l'espace. C'est se donner un peu de temps pour soi, accepter de poser le doudou. Moi, le téléphone, c'est devenu un doudou. Hein. Pour beaucoup de gens, on a le téléphone, c'est notre doudou. Tu es dans le métro, vite, le doudou. Tu arrives dans un espace où tu connais personne. Ah, bah, mon doudou, au moins, je suis pas toute seule. Si on pose le téléphone 6 mois, on vit en ermite aujourd'hui. Mais d'accepter de le poser un peu, de créer cet espace. Et créer cet espace, c'est d'avoir un peu de temps pour soi, un peu de place. De l'horizon aussi parfois, ou même simplement une balade dans la région où on habite, et il y a tellement de choses à voir, mais déjà ça, toi, ça t'aide à te dire, bah tiens, voilà, je me recentre un peu sur moi, je peux ressentir la nature, et à ce moment-là, les choses s'éclaircissent, ça, tu sais le dire.
Ouais, carrément, chaque bénévole qui arrive chez AIDA reçoit une demi-journée de formation. Et à l'issue de cette demi-journée de formation, notre psychologue qui s'appelle Emma fait un temps, comment est-ce que je remplis la bouteille d'oxygène ? Avec cette idée de se dire que quand on fait un métier ou quand on a un engagement qui prend beaucoup d'énergie, bah, il y a un moment, notre bouteille d'oxygène se vide et que l'idée, c'est comment on la ressource. Et elle te demande de faire un exercice qui n'est pas facile et que je t'invite à faire si tu as un
plaisir.
Peu de temps, qui est de lister les 30 choses qui te ressourcent sans te faire culpabiliser. Et c'est pas évident, ça fait 8 ans que cette formation existe et je suis à 14 choses sur ma liste, donc ça prend du temps de remplir la liste. Mais c'est des choses du quotidien, je pense que c'est pas obligé d'être aussi extravagant que d'aller vivre à Saint-Malo.
Mais ça peut être des fois prendre un thé, voilà. Simplement une petite chose. Mais
moi, je sais que dans l'alimentation, par exemple, je me ressource beaucoup. Moi, j'avais un rapport jusqu'à présent à l'alimentation qui était très... je compensais des choses difficiles que je pouvais voir dans ma journée sur l'alimentation et qu'il a fallu faire de l'alimentation mon allié pour faire face à ces choses dans la journée. Et que dans l'alimentation, en allant faire tes courses, en choisissant des choses que t'aimes bien, en prenant le temps de cuisiner, bah voilà, c'était des espaces où tu prenais le temps et donc qui pouvaient te ressourcer. Je l'ai dit tout à l'heure, mais lire un livre à voix haute, c'est extraordinaire. Au lieu de mettre 30 secondes à lire ta page, tu mets 2 minutes. Mais en fait, tu plonges vraiment dans l'univers de l'auteur que tu as décidé de lire. Il t'a donné du temps en écrivant ce livre, mais tu lui rends ce temps-là et tu te l'offres aussi à toi-même. Et ça, c'est assez extraordinaire.
Vraiment, c'est une belle clé. En tout cas, c'est un bel exercice. Je vous invite à le faire, hein, vous avez bien compris. C'est une liste de 30, et même plus, si vous en avez plus, de 30 choses qui pourraient nous aider à mettre de la lumière sur ce qui nous ressource vraiment. Alors, ça peut être des petites choses, des plus grandes choses. Ça peut être un coup de fil à un copain. Ça peut être prendre le temps, même un quart d'heure, de lire un livre qui vous plaît, d'écouter une conférence. Ça peut être se faire un thé. Ça peut être 1000 choses. Et d'avoir une liste comme ça, je crois que c'est vraiment très précieux parce que quand on se lance dans un projet, moi je le vois, écrire c'est assez difficile pour moi. Et quand je me lance dans l'écriture, je mets comme ça des espèces de récompenses. Une fois que je suis bien alignée, que j'écris des lignes, tiens, je me dis, allez, je fais ça 2 heures et je lâche rien et puis je vais me faire un petit thé par exemple. Et hop, les choses repartent. Donc merci pour ça. Essayons de trouver des petites choses. Et comme tu l'as dit, et ça c'est très juste, il y a un vrai bémol, c'est faire des choses pour lesquelles on ne culpabilise pas. Ça, c'est vraiment le point important, je trouve.
Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, la clé, pour moi en tout cas, ça a été de sortir d'une logique de consommation. Je trouve qu'on est dans une société où on est hyper incité à consommer, tout le temps, partout. Quand on vit dans des grandes villes, notamment comme Paris, Moi, je consommais pas pareil à Saint-Malo que je consomme à Paris aujourd'hui, forcément. Et je consommais pas pareil quand on vivait au Liban qu'aujourd'hui à Paris. Donc, on est vraiment dans une logique de consommation. Et je trouve que quand tu es dans une logique de « je prends le temps », tu quittes graduellement cette logique de consommation. Par exemple, un ami me disait « j'ai essayé de la liste de la psy d'Aïda et j'ai mis regarder une série sur Netflix, j'en ai regardé 12 de suite et en fait, ça m'a pas du tout fait du bien ». Et en fait, on en a discuté et on s'est rendu compte qu'il avait consommé la série Netflix parce que à portée de main, parce que voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'écouter
non,
Netflix.
Non, bien sûr, mais
peut-être que d'aller voir un film au cinéma et de prendre le temps, peut-être que ça remettra ce temps et cet espace qu'il faut pour déconnecter.
Ça, c'est vraiment, je trouve, une très belle clé. Merci pour ce partage. Comment tu fais? Parce que pour en arriver là, forcément, il y a eu 1000 chutes. Forcément, t'es tombé, forcément, t'as eu des freins, forcément, t'as eu des murs, forcément. Comment on fait pour dépasser ça? Alors qu'il y a des noms à tout, il y a plutôt des noms à tout, on va dire, en général, quand on se lance dans un projet. Toi, du haut de tes 24 ans et de cette énorme expérience, parce que en plus de ça, tu fais 1000 métiers. Parce que pour diriger une association, il faut pas juste créer un produit ou juste créer un rêve. Il faut apprendre 1000 métiers. Je connais bien le monde de l'entreprise, donc l'association, c'est quand même un peu la même chose. Il faut apprendre 1000 métiers dans différents domaines. Donc face à toutes ces portes, face à tous ces noms, face à toutes ces galères, comment ça se passe pour toi?
T'as souvent
outre
le sentiment...
le fait de ne pas dormir toujours bien.
Hein. Oui, bon, écoute, t'es un peu, parfois un peu insomniaque, mais encore une fois, t'essayes de recréer de l'espace et du temps pour dormir un peu mieux. Mais au-delà de ça, moi, j'ai souvent eu le sentiment d'être en bas d'une montagne. Cette espèce de moment où t'es en bas d'un truc qui est immense et tu te dis, mais comment est-ce que je vais arriver en haut? Ça va me prendre tellement de temps, est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller faire autre chose où je ne me prends pas la tête? Et pourquoi est-ce que je me prends la tête sur des sujets où parfois tout le monde s'en fout? Pourquoi il n'y a que nous, en collectif, qui réagissons là-dessus? Et je trouve que c'est un sentiment pas facile parce que tu sens que tu as ce truc énorme à franchir et tu te sens parfois un peu nul, tu te sens parfois pas assez armé. Et moi, quand ça arrive, j'ai plein de petites clés qui m'aident à faire en sorte que la montagne ait l'air un peu moins grande. En te disant que ça ne va pas être une grande victoire, mais que ça va être la somme de plein de petites marches qui vont te permettre d'arriver en haut de la montagne. T'es pas sur un sprint, mais t'es sur une course d'endurance où il y a des étapes de ravitaillement et que t'as le droit de t'arrêter à tes ravitaux, de prendre un peu de sucre, de prendre un peu d'eau pour continuer à gravir ta montagne. Et ça, ça m'aide.
L'objectif, c'est plutôt la prochaine étape, voilà. Plutôt que le haut de la montagne, même si, évidemment, l'objectif final, c'est la montagne.
Tu perds pas l'horizon.
Tu perds pas l'horizon. Mais voilà, l'objectif, là, court terme, c'est plutôt d'arriver à l'étape où je vais faire mon premier ravitaillement ou mon deuxième ravitaillement, etc.
C'est ça. Et donc, moi, généralement, je dessine sur un bout de papier la montagne et puis je mets les marches. Et donc, je fête chacune des victoires.
Tu célèbres. Alors, comment tu célèbres, justement? Parce que ça, je le dis souvent, célébrer le simple fait d'avoir eu l'idée, célébrer chaque étape, en fait, je le dis aussi. Comment toi, tu célèbres?
Alors, il y a deux temps de célébration. Je pense qu'il y a en équipe. Et là, ça dépend. C'est souvent l'un d'entre nous qui se lève et qui a une idée. Et après, individuellement, moi, je prends quelque chose de ma liste. Mm-hmm. Et j'essaye de me dire que je vais faire ça. J'aime bien célébrer en simplicité.
Un des exemples qui peut venir comme ça parmi toutes ces
célébrations. Ça m'est déjà arrivé la semaine dernière, j'ai eu une super nouvelle pour le boulot et ça m'est déjà arrivé de lire deux chapitres de mon livre préféré à voix haute pour célébrer ça. Et c'était super parce qu'après j'étais vraiment dans un autre monde et j'ai trop bien dormi.
Donc parfois la simplicité, juste se faire du bien à soi, de se donner ce temps. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est une seconde qui passe, c'est une seconde qu'on ne reverra jamais. Donc quand tu lis pendant 2 minutes, pendant un quart d'heure, pendant 20 minutes... un livre qui te fait vraiment du bien, c'est aussi du bonheur que tu te donnes. Et ces secondes-là, elles sont pour toujours.
Totalement.
Tout comme dans tout ce qu'on fait. OK, donc, une des premières clés, c'est de diviser, de mettre des étapes et puis de célébrer chaque étape.
C'est ça. Et pour moi, la deuxième clé, c'est de faire des choix.
Parle-nous de ça. Ça me plaît aussi.
Alors, moi, j'ai longtemps voulu tout faire en même temps. Je pense que j'ai eu une forme de boulimie de travail. Et en fait, j'étais vraiment dans la consommation. C'est-à-dire qu'il fallait... travailler tout le temps, j'allais dire oui à tout parce que j'allais être capable de tout faire. Le fait d'être physiquement loin à Saint-Malo et devoir faire des allers-retours, déjà t'oblige à prioriser. Évidemment, tu vas pas aller au dîner tous les soirs, tu vas pas accepter toutes les réunions en présentiel parce que sinon ça sert à rien d'avoir déménagé à Saint-Malo. Donc ça t'oblige à prioriser, à faire des choix. Et donc moi j'aime bien dessiner, je suis assez visuelle, alors je dessine très mal, donc je dessine que des formes. Mais donc au-delà de la montagne, je la représente avec deux triangles, l'un à côté de l'autre, et donc j'ai un triangle pour ma vie perso. Et un triangle pour ma vie pro. Et donc, j'ai 3 choses que je peux mettre dans le triangle, parce qu'il y a 3 angles au triangle, et je ne peux pas en mettre plus.
Donc, tu mets trois choses importantes dans chaque montagne, enfin, dans chaque triangle, on va dire.
Et donc, c'est comme ça que je prends mes décisions. Et donc, mes décisions doivent toujours être en adéquation avec les trois choses. Alors, évidemment, à chaque fois que je prends une décision, je ne dessine pas un triangle. Au bout d'un moment, ça devient un automatisme.
Mais tu te limites à ces deux triangles.
Oui.
Donc, si tu as un projet, par exemple, on va dire Aïda, là, sur lequel tu travailles, tu vas dire, j'ai trois priorités sur ce grand projet.
Oui. Tu vois, mon triangle Aïda, ça doit être un triptyque entre quel sens et quel impact pour le patient,
oui,
quelle pérennité de financement et quel degré de bien-être pour mes équipes.
Okay.
Et donc, pour choisir un projet, il doit s'intégrer dans ce triptyque-là.
Dans ce triptyque.
Ça ne doit pas basculer d'un côté plus que d'un autre. Ça doit garder l'équilibre.
Autrement dit,
de ce
si tes équipes ne sont pas respectées, alors que le projet peut être extrêmement ambitieux, rentable, etc., c'est non.
C'est non.
Ok. Et comment tu apprends à dire non ?
Alors, plusieurs choses. Soit non, le projet te plaît, en fait, pourrait rentrer dans le triptyque, mais par exemple, les équipes ne sont pas respectées parce qu'elles sont surchargées. Mais tu te dis que dans 7 mois, ça pourra marcher. Bah, tu dis non en proposant que ce soit un peu plus tard, ça peut être une façon. Et après, l'autre façon pour moi, c'est d'être très honnête. Moi, je déteste donner une excuse bidon. Moi, j'aime bien expliquer pourquoi. Donc, généralement, je passe un coup de fil, je trouve ça toujours mieux. Ou je réponds très vite par mail, mais j'essaye toujours de passer un coup de fil et dire, voilà, je suis désolée, je peux pas parce que dans votre projet, il y a ça et ça qui me dérange. Si on arrive à trouver un point de consensus qui permette de le faire atterrir plutôt là, je pourrais reconsidérer dans quelques mois qu'on puisse faire ça ensemble. Mais sinon, je vous conseille peut-être plutôt de travailler avec cette personne ou cette personne qui, je sais, pourrait être intéressée. Donc, j'essaye toujours de trouver des solutions ou d'orienter la personne en face de moi parce que je pense que tout projet a le mérite d'exister et qu'il faut soutenir comme on peut.
Toute idée est bonne.
Et toute idée est bonne. Et voilà, mais je pense qu'un projet, c'est une rencontre entre des personnes. Donc, il faut que cette rencontre, pour qu'elle se fasse, dans les meilleures conditions et qu'on soit disposé à l'accueillir. Et quand on n'est pas disposé à l'accueillir, je pense qu'il ne faut pas se forcer parce que sinon, ça fait du mal à tout le monde, y compris au projet, quoi.
Merci, je pourrais parler des heures avec toi, Léa. J'ai encore 1000 questions, je sais que je ne pourrais pas te poser les 1000. J'en ai une qui est... Bien sûr, je reviens sur ta jeunesse parce qu'à 24 ans, c'est quand même fou d'avoir cette maturité d'esprit. Et comment t'acquiers ça ? T'es pas née avec ça. Je veux dire, je veux bien croire que tes parents soient exceptionnels, que t'aies un entourage exceptionnel. Comment on acquiert ? Parfois, il faut une vie pour apprendre à dire non. Parfois, il faut une vie pour oser. Parfois, comment t'arrives à ça ? Tu t'es fait aider, t'as lu, t'as fait des études brillantes. Mais au-delà de ça, comment t'arrives à ça ? C'est pas inné. Enfin, je veux dire, même si on a des tempéraments, tu l'as dit, t'as peut-être souffert aussi physiquement. On parlait de maladie assez jeune, c'est ça ?
C'est quelqu'un dans ma famille qui a été confronté à la maladie.
T'es confronté à la maladie. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment, tu dis, j'ai mes projets, j'ai envie de faire du bien, mais bon, il y a quand même... beaucoup de freins et il faut que j'apprenne à diriger, il faut que j'apprenne. Comment ça se passe pour toi ?
Je pense que c'est une somme de beaucoup de choses. Déjà, je pense que c'est la conviction qu'il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Et donc, c'est pour ça que c'est une course d'endurance et c'est pour ça que c'est obligé de te préserver. Je crois que tu es toujours une version qui évolue de toi-même. C'est un peu comme un Pokémon qui évolue, quoi. Et ça, du coup, je trouve que c'est chouette parce qu'il n'y a pas de finalité. C'est-à-dire que tu es ce que tu es à un instant T. Et peut-être que ce que tu es aujourd'hui sera différent de ce que tu seras dans 5 ans et t'es différent de ce que tu étais hier, mais c'est ce que tu es maintenant. Donc ça, je pense que c'est une première conviction que j'ai et qui fait que ce qui compte, en fait, c'est d'avoir fait ton mieux dans la journée. Et si ça, c'est acté, c'est un peu la seule chose que tu peux contrôler. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Je pense que la deuxième chose, c'est les rencontres que tu fais. J'ai la chance d'avoir grandi... à l'hôpital public, parce que comme j'ai commencé à 15 ans avec Aïda, tous mes mercredis après-midi, toutes mes soirées, tous mes week-ends, c'était à l'hôpital. Et là-bas, tu rencontres des soignants incroyables, tu rencontres des jeunes qui ont ton âge et qui t'apprennent beaucoup au quotidien. Tu te poses des questions très tôt, tu vois, quand t'as des jeunes de 18 ans qui disent « Bah moi, ma maladie, elle m'a beaucoup appris, je la déteste, elle m'a brisé une partie de ma vie, mais elle m'a aussi beaucoup appris, je serais pas la même personne sans ». Quand tu confrontes ta santé mentale aussi, très tôt, parce que je pense que c'est un sujet qui est très tabou, qu'il était d'autant plus avant le Covid, et d'autant plus dans une famille libanaise où tu ne dis pas trop tes sentiments et tu es assez pudique, de pouvoir parler de santé mentale à l'hôpital, de comment tu te sens, de tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup de sujets qui sont normalement tabous, que tu verbalises très tôt. Et moi, j'ai beaucoup appris à l'hôpital, j'ai beaucoup appris de toutes ces rencontres que j'ai faites, et ils ont clairement changé ma vie, et je pense que il y a un moment où ça t'oblige aussi, tu vois, ça t'oblige à te dire...
voir les choses un peu autrement.
À relativiser aussi beaucoup quand t'accompagnes la fin de vie aussi, quand t'es confronté à la mort régulièrement, il y a beaucoup de choses que tu relativises. Et tu perds pas ton humour pour autant, parce que je crois que l'hôpital est un milieu où il y a beaucoup d'humour. Mais ça t'apprend à relativiser beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a un dernier truc. Je disais tout à l'heure, tu m'as demandé mes valeurs, je t'ai dit mes racines et ma famille. Et je pense que les deux m'ont transmis quelque chose d'assez similaire, qui est cette culture libanaise où quand ça n'existe pas, il faut le créer. Et où t'es tout le temps dans quelque chose où t'es dans la création. Et je sais que je suis heureuse quand je crée des espaces dans lesquels on peut agir et dans lesquels quelque chose qui n'existait pas avant peut exister aujourd'hui. Et je pense que c'est quand tu te laisses guider par cette boussole que sont tes valeurs et que sont tes racines que t'es assez en phase pour la suite.
Merci pour ça. Et parfois, on ne peut pas créer une association comme tu le fais. Quand on a un autre métier, parfois, on se dit « mais j'aimerais aider ». Et tu nous laisses aussi cette possibilité, en créant une association, de pouvoir aider d'une autre façon, en faisant des dons, par exemple, en donnant parfois du temps pour les jeunes. Il y a des jeunes qui ont un peu de temps et qui ne savent pas quoi faire et qui aimeraient aider, mais ils ne se sentent pas capables. Je sais que tu proposes de les aider pour aider les autres.
C'est ça.
Il y a des formations, il y a des... Comment on peut t'aider dans l'association? Donc, outre les dons, c'est sûr, je vous le dis, mais je le remettrai en commentaire, c'est www.associationaida, tout attaché, donc association au singulier, aida.org. Je m'engage personnellement à vous dire que chaque centime va être utilisé au bon endroit, parce que c'est une association qui, aujourd'hui, aide énormément, énormément de monde. Et puis après, il y a tous ces jeunes, parce que c'est essentiellement des jeunes qui rentrent dans l'association, c'est ça?
Alors, nos bénévoles, effectivement, la moyenne d'âge, c'est 19 ans. Donc, c'est des populations plutôt jeunes, qui ont entre 14 et une trentaine d'années, qui sont soit formés à intervenir dans les hôpitaux, ou soit qui peuvent s'engager avec nous sans forcément avoir à aller à l'hôpital, parce qu'on n'est pas obligé de vouloir donner de son temps à l'hôpital, et qui peuvent faire pas mal de choses, organiser des événements, représenter l'association, courir et lever des fonds en courant pour AIDA. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour s'engager. Et là, c'est toujours sur le même site que tu as donné, www.associationaida.org.
Et je vous invite vraiment à aller voir ce qui se passe sur cette association. Enfin, c'est juste hallucinant de faire vivre quelque chose comme ça. Et il y a un tel besoin, donc bravo pour ça. T'as aussi écrit « Je veux être utile » chez Robert Laffont. Pourquoi ce livre qui, dans son titre, déjà donne beaucoup de choses
Je crois que ce qu'on a vécu avec AIDA, c'était difficile à raconter. C'est tellement chargé émotionnellement de rencontres. C'est un univers à part entière. C'est un monde qui est très connecté à la réalité. Et en même temps, c'est tout un écosystème de dizaines de milliers de personnes qui aident partout en France. Et on voulait raconter ça. Et on ne voulait pas le raconter par le prisme de l'infiniment grand, on voulait le raconter par celui de l'infiniment petit.
Petit pas par petit pas, on arrive. Je vous invite vraiment à lire ce livre. L'idée, ce n'est pas forcément de monter une association, c'est juste de se rendre compte que quoi qu'on fasse dans la vie, ben, voilà, il y a des plans galères. Et comme ça, un coach, quand j'ai commencé à faire des conférences, il disait « Mais quand il t'arrive une bonne galère, c'est toujours bon parce qu'on aura toujours quelque chose à raconter sur scène. » Et c'est souvent ça qu'on raconte d'ailleurs, la petite galère ou la grosse galère qu'on a vécue. Et là, tu en parles avec toute authenticité. Et donc vraiment, c'est un beau moment de vie parce qu'on pourrait le transposer à n'importe quel projet finalement. Ce n'est pas que le projet de monter une association. Il y a tout ce rapport humain qu'on vit. Donc voilà, « Je veux être utile » de Léa Moukanas aux éditions Robert Laffont.
Merci.
Merci pour tout, Léa. Merci pour qui tu es avant tout. Merci d'oser, merci de pousser les portes, merci de dérégler certaines règles aussi et d'offrir cette humanité à notre humanité, parce que je crois que cette nouvelle génération qui arrive, 24 ans, voilà. Vous imaginez bien, je suis en face d'une enfant qui est bien plus mature que moi, enfin, c'est juste fou. Donc merci pour ça, merci pour ton engagement et merci pour toutes les clés que tu as partagées, parce que encore une fois, on peut transposer à notre vie des petites choses qui font un bien fou. Donc testons, expérimentons. Dans mes podcasts, l'idée c'est pas de prendre pour argent comptant ce qu'on dit, mais plutôt bah tiens, ça t'a servi, moi je vais essayer, peut-être que ça va me servir aussi. Et quand on met son pouvoir pour les autres et non plus sur les autres, à partager des petites choses qui nous aident au quotidien, bah, ça nous permet de grandir tous ensemble, parce qu'on est tous experts de notre vie. Donc merci à toi Léa. Et
Merci à
tous pour tous vos messages. On est à près de 2 millions sur ce podcast. Enfin, c'est juste fou ce qui se passe. Donc merci de nous tenir la main et on grandit et on avance ensemble grâce à toute cette expertise. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de ces questions que tout le monde se pose. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Maude Ankawa, ou consulter mon site internet maude-du6ankawa.com.
N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erol@gmail.com.
Pour trouver toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode, et je serai également ravie de vous retrouver en librairie avec mes 3 romans, Kilomètre Zéro, Respire, Le plan est toujours parfait, et Plus jamais sans moi.
Un grand, grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.